Merci d'être avec nous. Nous continuons nos rendez-vous avec la mort, l'ancien mystique ordre de la Rose Croix. Et aujourd'hui, je vous propose de rencontrer via Skype Laurent Aquenin, qui est notre invité. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous m'entendez bien, j'espère?
Oui, oui, très bien. Très bien.
On a toujours un petit peu peur avec avec les contacts Skype. Alors Laurent Aquenin, vous êtes historien, critique de cinéma. Et vous avez publié un livre chez les diffusions rosicruciennes qui s'appelle Ésotérisme et cinéma. C'est bien ça?
C'est ça.
Alors, bah, je vais vous poser une première question. Déjà, l'ésotérisme et le cinéma, est-ce que ça fait bon ménage? L'ésotérisme, c'est quoi? C'est une science cachée, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'était un petit peu l'idée de faire un paradoxe, parce que l'ésotérisme, bon, c'est un mot qui a été mis à toutes les sauces. À la base, ça veut dire ce qui est caché, c'est-à-dire un discours, une idée, un concept, une œuvre qui est cachée. Alors, par rapport au cinéma, qui est quand même l'art du XXe siècle, même du XXIe siècle, il y a qu'à voir la frénésie qu'il y a en ce moment parce que les salles vont enfin réouvrir demain, donc tout le monde veut aller au cinéma. Dire de quelque chose que c'est caché quand il s'agit du cinéma, ça fait un petit peu étrange. Bon, d'un autre côté, l'ésotérisme, ça désigne aussi non pas ce qui est caché, c'est-à-dire totalement secret, mais ce qui est voilé, c'est-à-dire un discours, un thème qui est volontairement masqué, voilé, pour ne pas être compris, pas pour être compris par personne, mais pour être compris que par un certain nombre de personnes. Et comment est-ce que ce voilement se fait? Il se fait par des images, par des symboles, par des métaphores, des métonymies, par tout un processus de discours, souvent visuel. Et moi, qui viens du cinéma, je me suis posé la question à un moment donné de voir si le cinéma, qui est un art de masse, pouvait avoir un lien avec le discours ésotérique. C'est-à-dire, est-ce qu'il était capable de produire un discours ésotérique, au sens large? Et je me suis mis à revisiter un petit peu l'histoire du cinéma en prenant cette idée-là. Et à ma grande surprise, je dois dire, parce que je ne m'attendais pas à ce que le terreau soit aussi riche que ça, je me suis rendu compte que tout au long de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire depuis l'époque du muet jusqu'à du cinéma le plus contemporain, on pouvait trouver comme ça des traces de discours ésotériques au cinéma. Ça pouvait être soit des discours vraiment explicites, c'est-à-dire des œuvres à voiler, c'est-à-dire que seules certaines personnes pouvaient vraiment voir ce qui se cachait derrière. C'est le cas des films muets de certains films muets de Frank Borzeghi, par exemple, des grands mélodrames hollywoodiens qui étaient à double sens. Ou bien on pouvait, même dans les films les plus commerciaux, même dans les blockbusters hollywoodiens, retrouver des clés, des symboles qui appartiennent à certaines, qui renvoient à certains archétypes de l'imaginaire, et qui ces mêmes archétypes ayant servi ou servant encore à des symboles ésotériques. Parce que il faut bien voir, c'est ça aussi qui m'intéressait, que quand on parle d'ésotérisme, quand on parle de symboles visuels et autres, le cinéma, l'imaginaire, puise aux mêmes archétypes. Tout ça est issu de l'esprit humain. Donc, quand on fait une œuvre d'imaginaire, quand on fait des clés ésotériques, on puise finalement dans les mêmes fonds. Et logiquement, il y a comme ça des passerelles qui peuvent se faire dans certaines œuvres, dans certains films, entre les symboles ésotériques et les œuvres artistiques.
D'accord. On imagine, enfin, je ne connais pas les films muets, c'est vrai qu'on fait pas trop le rapport des fois entre ésotérisme et cinéma, mais c'est, quand on voit des films de Cocteau, par exemple, on se doute qu'il y a des choses là-dedans. Non? Il y a des symboles, on voit des images, des représentations spécifiques, un peu mystérieuses même parfois.
Alors Cocteau, c'est vraiment très intéressant parce que Jean Cocteau a fait quasiment son auto-ésotérisme, je dirais d'une certaine manière, c'est-à-dire que ses clés, ses symboles lui appartiennent en propre, en grande partie. Mais quand on voit un film comme Orphée, et surtout le Testament d'Orphée, qui est un véritable voyage initiatique, on voit bien qu'il y a là des traces, des fonds communs aux symboles traditionnels que Cocteau a repris et repoétisé, si je peux m'exprimer ainsi, avec son propre univers. Et en même temps, quand on regarde l'œuvre de Cocteau, surtout l'œuvre écrite, on voit qu'il y a des liens très forts entre, par exemple, la Rose-Croix, le martinisme, puisqu'il y a des clés martinistes que l'on trouve dans certains textes de Jean Cocteau, et puis dans certains de ses films, c'est explicite, surtout dans le Testament d'Orphée. C'est un bon exemple, Cocteau, parce qu'on voit bien que dans ce cas de figure, la poésie au sens propre, c'est-à-dire l'acte poétique, renvoie à un imaginaire qui, et cet imaginaire lui-même était là où se trouvaient les sources des symboles que beaucoup d'œuvres ésotériques vont utiliser.
Alors, à quoi ça sert l'ésotérisme dans le cinéma? Est-ce que ça nous apporte un enseignement à nous qui ne sommes pas du tout branchés ou qui n'avons pas ces clés de la connaissance? Ou alors, est-ce que c'est juste réservé à quelques initiés qui vont capter quelque chose dans le film?
Je dirais que c'est presque le bonus du DVD, en D'accord. quelque sorte, l'ésotérisme. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, un très, très grand classique comme 2001, Odyssée de l'espace, par exemple, bon, qui est un film Metro-Goldwyn-Mayer, 70 mm, Stanley Kubrick, maintenant, il est dans toutes les histoires du cinéma. On peut pas dire que ce soit un film qui soit peu connu, qui soit masqué. Bon, il y a encore 2 ou 3 ans, il y a eu une copie restaurée par Christopher Nolan qui a été montrée au Festival de Cannes. C'était merveilleux. Bon, c'est un film extrêmement connu. Quand on voit le film, spectateur lambda, on voit quelque chose de très beau, de très mystérieux. On finit par une énigme. D'ailleurs, tout le film est énigmatique. Et on comprend, je dirais, qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc, on est en face d'un mystère. Maintenant, quand on est un petit peu attentif et quand on a un peu plus d'expérience sur certaines clés classiques de l'ésotérisme, on peut commencer à trouver dans le film des repères qui peuvent nous aider, qui donnent un bonus, qui donnent un plus. Par exemple, on peut remarquer que le chiffre 3 dans 2001, Odyssée de l'espace est omniprésent. Il y a 3 intertitres, 2001, 2 plus 1 égale 3, HAL 9000, l'ordinateur HAL 3 lettres, 9000 c'est 9, donc 3 multiplié par 3, etc., etc., etc. Bon, donc on peut commencer à se dire, tiens, pourquoi cette omniprésence? On peut remarquer dans la fin, la fameuse séquence dans la chambre mystérieuse, qu'il y a beaucoup de clés classiques qui arrivent. Par exemple, il y a un verre de cristal qui se brise à un moment donné, au moment où Dave Bowman va faire sa métamorphose. Il y a des tableaux très symboliques avec, par exemple, une échelle, avec quelqu'un qui monte à l'échelle, qui va cueillir un fruit, bon, avec un rappel de l'arbre de vie, de l'arbre de la connaissance. Le film est truffé comme ça de clés, de symboles. Maintenant, si on ne les remarque pas, si on ne les voit pas, n'empêche que le film est magnifique, bien évidemment, et on peut le voir 10 fois avec un même enthousiasme. Si en plus on commence à repérer certaines petites choses, eh ben on va avoir un élément de plus qui pourrait peut-être aider à une compréhension, et pas à la compréhension, mais à une compréhension du film.
Alors vous parlez de Christopher Nolan, là on est dans le blockbuster, quoi, les grands films oui. à grand budget, et c'est vrai que un de ses derniers films c'est Tenet.
Oui.
Il y a quelque chose d'un peu ésotérique là, non? Rien que le nom qui se lit à l'envers, il y a quand même des messages là.
Ah bah complètement, d'ailleurs c'est très très jubilatoire parce qu'il y a un jeu en plus. Tenet, qui est un palindrome, le film est un palindrome, c'est-à-dire qu'il peut se... l'idée c'est de voir 2 strates temporelles qui vont dans les 2 sens. Donc le film se lit dans les 2 sens, comme le mot Tenet, qui est un palindrome lui-même. Mais Tenet, le mot Tenet vient lui-même d'une phrase extrêmement célèbre dans l'ésotérisme qui s'appelle c'est le carré Sator. Ah. Sator arepo, Tenet opera rotas, en latin. Cette phrase, Sator, Tenet, etc.
Ah oui, les mots sont à l'endroit et à l'envers selon où ils se positionnent dans
oui,
le carré.
Se met dans un carré et peut se lire, c'est un palindrome, la phrase peut se lire dans les 2 sens, et elle peut se mettre dans un carré, et le carré lui-même peut se lire dans tous les sens. Bon, avec une signification en latin un peu obscure, qui est laissée libre à l'interprétation du traducteur et du lecteur. Maintenant, quand on regarde le film de Christopher Nolan, on voit que les mots de cette fameuse phrase se retrouvent dans le film. Il y a Rotas, il y a un personnage qui s'appelle Arepo, il y a... Bon, donc il y a tout un jeu comme ça pour faire comprendre à demi-mot, d'une manière voilée, qu'il y a dans ce film certaines clés, et que si on suit les clés qui viennent de la phrase du carré Sator, on va être beaucoup plus à l'aise pour comprendre ce qui se passe.
D'accord. Et en même temps,
c'est un blockbuster, c'est-à-dire qu'on peut le voir sans voir ça et quand même passer 2 heures absolument époustouflantes.
Oui, c'est ça. C'est qu'il y a des moyens, il y a des effets spéciaux, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on s'accroche. Mais en même temps, c'est peut-être des petites clés, des petites portes qui nous ouvrent ou qui nous amènent vers une envie d'en savoir plus. Vous croyez qu'ils travaillent comme ça, ces auteurs, pour nous amener vers la connaissance ou vers une recherche de la vérité ou de certaines vérités?
Je crois que vous avez dit le maître mot, c'est la recherche. C'est-à-dire que s'il y a une clé, s'il y a quelque chose de commun dans pratiquement tous les discours ésotériques, quels qu'ils soient, c'est que ce ne sont pas des enseignements ou des textes dogmatiques, c'est l'inverse. Vous savez, par exemple, en alchimie, il y a un jeu de mots, la matière première pour certains, pour le faire de l'alchimie alchimique, c'est l'antimoine. Pourquoi cette matière-là plus que d'autres? Tout simplement parce qu'il faut pas raisonner comme un moine. Il faut être anti-moine. Il faut s'ouvrir. Quoi.
C'est le langage des oiseaux en même temps.
Comme ça. Mais il y a quelque chose de plus intéressant, me semble-t-il, encore dans le cinéma. C'est que tout ce qu'on vient de dire, ça concerne le récit, enfin, ce qui est montré à l'écran. C'est le visuel, c'est la narration. Mais en plus, au cinéma, qu'est-ce qui fait la spécificité du cinéma? C'est que on voit tout ça dans un dispositif qui est très particulier et qui est unique en son genre. C'est-à-dire que le cinéma, c'est pour ça qu'on est tellement en manque de cinéma là peut-être. Au cinéma, on regarde pas un film au cinéma comme on le regarde là, moi sur un ordinateur, à la télévision, sur un smartphone. Il faut faire d'abord une démarche. Il faut sortir de chez soi, il faut aller dans un lieu, on passe une première étape qui est la caisse, on peut éviter la confiserie si on peut. On va dans une salle, on s'assoit, on va se mettre dans le noir, et puis il va y avoir une lumière qui va arriver de l'arrière, qui va passer par-dessus notre tête, qui va arriver sur un écran en projection, et j'adore ce terme projection, et il va y avoir une réflexion de cette lumière qui va venir vers nous. Donc déjà, tout ce dispositif est extrêmement curieux. Il est unique en son genre. Il n'y a rien qui correspond à ce dispositif, dans les autres arts, qui correspond au dispositif du spectateur au cinéma. Mmh. Et puis, on a beaucoup parlé depuis l'époque du muet, depuis les premiers théoriciens, ils se sont dit, mais c'est quoi cette machine curieuse qui est la machine cinéma? Alors certains ont dit que voir un film, par exemple, c'était comme être dans un rêve. Parce qu'effectivement, il y a des sauts dans le temps, il y a des sauts dans l'espace, on est dans le noir, il y a peut-être quelque chose de ça. Il y en a d'autres, Roland Barthes par exemple, émis l'hypothèse, mais c'était pas le premier, Cocteau, Epstein, avant lui, on parlait de ça, que ce n'était pas un rêve, parce qu'on ne dort pas, mais que c'était peut-être de l'hypnose. En tout cas, que c'était l'équivalent d'une transe hypnotique de premier stade. En tout cas, il y a quelque chose qui revient, c'est de dire que quand on est au cinéma, le film nous atteint pas seulement au niveau intellectuel, de la pensée, mais au niveau de l'inconscient, ou à un niveau de l'inconscient. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça renvoie au niveau de l'ésotérisme, comme l'ésotérisme joue beaucoup sur l'initiation, pas tout le temps, mais enfin, initiation, rituel initiatique, ésotérisme, ça va souvent ensemble. Un rituel initiatique, grosso modo, c'est la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que quand, quelle que soit la tradition, je veux dire, prenez une tradition africaine, dans les arts martiaux, enfin, n'importe quelle tradition initiatique, une initiation, c'est toujours le même modèle, je dirais, enfin, le même principe. C'est prendre quelqu'un, ou quelqu'un va quelque part, on va le mettre dans un dispositif spécial dont il n'est pas l'habitude au quotidien. Et dans ce dispositif, il va avoir des informations, bien sûr, intellectuelles. On va lui dire des textes, on va lui apprendre des choses. Mais en même temps, on va le mettre dans un état de réceptivité psychologique ou psychique, appelons ça comme on veut. Mais enfin, vous voyez bien ce que ça veut dire, dans lequel il va aussi avoir un ressenti différent. Et quelque part, le cinéma plonge son spectateur dans un dispositif qui est pas loin du rituel initiatique. C'est pour ça que quand on sort du cinéma, on n'est pas tout à fait dans le même état que quand on y est entré.
Alors, je fais une petite parenthèse. Je sais pas si vous avez entendu parler de ces études scientifiques qui a été faites aux États-Unis il y a quelques années par rapport au cinéma et à la télévision, justement. On avait pris des panels de spectateurs. On en avait mis devant une télévision qui est donc la projection vient de face, quoi. Et au cinéma, oui. Où c'est, comme vous l'expliquiez, ça vient de derrière, c'est projeté sur un écran. Et donc, on s'est aperçu dans les résultats que la majorité des personnes qui regardaient un écran de télé, quand on sortait de là, qu'on leur posait des questions, toutes les réponses étaient égocentrées. C'était je. Et ceux qui avaient vu l'écran de cinéma, eux, étaient plus ouverts sur l'extérieur et ne parlaient pas d'eux, parlaient de ce qu'ils avaient vu. Alors je ne sais pas si ça peut, mais c'est intéressant par rapport à ce que vous dites.
C'est très intéressant et c'est sûrement encore, à mon avis, cette expérience sera encore plus flagrante si on regardait des gens qui voient un film sur un smartphone ou sur une tablette.
Ah oui.
Ça sera encore plus égocentré. Mais c'est normal puisque la télévision, on est à son domicile, on est chez soi, donc on est centré sur quelque. Alors qu'au cinéma, on est non seulement à l'extérieur, mais en plus on est avec d'autres.
Entouré d'autres, oui, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'égrégore, quelque chose d'affreux, et ça je le vis parfois personnellement, professionnellement, c'est qu'on se retrouve dans une salle de projection seul. L'effet est terrible. Bon, parfois c'est nécessaire pour un plan professionnel, mais ça fait bizarre, on se sent pas très bien.
Oui, c'est vrai qu'on n'est pas très à l'aise.
Et on n'est pas très à l'aise, on n'est pas très à l'aise, c'est très curieux. Alors quand on est chez soi en regardant la télévision, on est parfaitement à l'aise. Ça va.
Il n'y a aucun souci.
Dans une salle de projection, c'est différent. Donc, non seulement on est à l'extérieur de chez soi, on est dans un autre dispositif, mais en plus, on est dans un groupe, c'est-à-dire qu'il y a un échange d'énergie. Un film qui, quelle que soit la nature du film, si c'est un film d'action, on sent la salle qui va vibrer, si c'est une comédie, regardez par exemple, c'est tout simple, mais je me rappelle avoir vu pour la première fois Les Visiteurs à l'époque de la sortie dans une salle un dimanche après-midi, salle pleine. Le film était littéralement porté par l'énergie de la salle. Mmh. Le film en lui-même n'est pas extraordinaire, mais l'énergie de la salle portait le film. Un film érotique, c'est pareil, d'une certaine manière. Si on le regarde à plusieurs, il y a une autre énergie qui va se dérouler dans la salle. Bon, quel que soit le type d'émotion, le collectif dans une salle, joue évidemment un rôle. Et puis, en plus, on est dans un état dans lequel on vit des expériences qui nous paraîtraient, si on le place au quotidien, totalement insensées. Par exemple, on parlait de Christopher Nolan et de Tenet, et avant, il y avait Inception. Enfin, c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur le temps, sur la distorsion du temps au cinéma. Alors qu'on nous dit toujours que le temps, c'est un absolu. Bon, voilà, le temps, c'est linéaire, mais en fait, il n'y a pas besoin de Christopher Nolan, il suffit d'aller au cinéma tout simplement pour faire l'expérience de deux temporalités. Au cinéma, il y a le temps de la projection, le temps de l'énonciation, le temps de la projection, et puis il y a le temps du film, et le temps du film correspond très rarement au temps de la projection. Oui. Quand ça arrive, même, on le signale, film en temps réel, ce qui est une exception.
Ou alors selon le dogme de je ne sais plus quel réalisateur. Lars von Trier, par exemple.
Et d'un autre côté, on n'est pas du tout passif non plus au cinéma. C'est-à-dire que quand certaines doctrines ésotériques nous parlent des créations mentales, par exemple, du pouvoir de la création mentale pour construire un univers, on dit que bon, c'est encore des histoires de doux rêveurs. Au cinéma, on ne fait que ça. On ne fait que ça. Même le champ contre champ, la figure la plus simple de la fiction au cinéma, c'est le champ contre champ, c'est-à-dire quelqu'un, caméra sur l'un, caméra sur l'autre, ils sont face à face et ils parlent. Élémentaire. Et ben, pendant qu'on voit ça, nous, sans le voir, on va recréer l'espace qui se place entre les deux.
D'accord.
On va créer un espace.
Ah, c'est bien parce que ça laisse de la place à l'imagination, parce qu'on dit souvent que le cinéma tue l'imagination par rapport au bouquin qui nous permet de développer notre décor et tout.
C'est tout l'inverse.
Alors que là,
au contraire. Et d'ailleurs, expérience simple, si des gens regardent en ce moment cette émission sur un réseau social, ils me voient une bibliothèque derrière, et donc ils vont, sans s'en rendre compte, imaginez que, bien sûr, il doit y avoir une autre pièce derrière, il doit y avoir une ville. Ils vont comprendre l'époque, ils vont comprendre qu'il y a un appartement, qu'il va y avoir une rue, etc. Ils vont faire ce qu'on appelle une création de l'espace diégétique, sans pour autant que la caméra le montre.
Effectivement.
Il n'y a pas besoin, il suffit de montrer ça. Et ça, c'est exactement ce qu'on explique quand on nous dit qu'il y a des possibilités de création mental pour comprendre l'univers. Il n'y a pas besoin de le voir, on peut, par induction, le construire. Ben, le cinéma nous fait ça tout le temps.
D'accord. Alors, pour revenir à des grands, grands films, avant que l'on se quitte et qu'on parle d'autres auteurs, il y a quand même un film qui a été un monument, toujours un blockbuster, hein, c'est Star Wars. Moi, j'ai le souvenir, de, mais même encore aujourd'hui, de gens qui analysent complètement ce qui est dit dans le film, comment ça se représente, les symboles, et qui en font carrément une sorte de, ouais, une sorte de Bible. Hein, je sais pas comment on peut appeler ça, mais...
Même une religion de Jedi, maintenant. Bon, c'est tout,
oui, voilà.
C'est le bouchon un petit peu loin. Mais, bien sûr, puisque Star Wars, le cycle Star Wars, c'est un creuset, c'est un best-of, c'est une récapitulation de toutes les mythologies possibles et imaginables. Et c'est pas un hasard si ça a été créé à Hollywood dans les années 70 sur la côte ouest, là où c'était justement un véritable bouillonnement ésotérique, spirituel. À cette époque-là, il y avait l'Ordre de la Rose-Croix qui était là, qui avait son siège mondial, mais il y avait aussi d'autres disciplines. Bon. Mais on peut s'amuser avec Star Wars parce que c'est stupéfiant de voir le nombre de mythes, d'archétypes qui bien sûr sont utilisés dans les doctrines ésotériques, mais aussi dans les doctrines imaginaires. Ça va du jeu sur les mots et les noms des personnages. Luke Skywalker, Luke qui représente un nouvel espoir, c'est le nom d'un des évangélistes. Han Solo. Solo, c'est le cow-boy solitaire, mais Han Solo, c'est l'allitération, l'anagramme de Lancelot, bien sûr.
Ah oui, d'accord.
Donc, il va tomber amoureux de la reine, la princesse Leia, qui sonne Leia, sonne comme light, lumière. Luke et Leia sont des faux jumeaux, ils sont frères et sœurs jumeaux. Mmh. Et ça renvoie aux dieux Isis et Osiris, puisque à un moment donné, quand il va combattre Darth Vader, qui sonne comme le père obscur, Dark Father, il va se faire trancher les membres, et c'est sa sœur qui va le sauver, qui va le recoudre. Mais on peut comme ça dérouler des tapis de références. Et c'est peut-être pour cela que le cycle Star Wars a eu autant d'impact, non seulement à cause des qualités d'aventure, proprement dites, des épisodes, mais aussi parce que ça renvoyait à des archétypes vraiment fondamentaux et que notre inconscient collectif, si on prend le terme de Jung, était très sensible à ça et que donc l'identification que l'on pouvait se faire par rapport à ces images nous ramenait très très profondément dans notre propre psyché et donc nous faisait évoluer.
Oui, c'est vrai, parce qu'à une époque, même moi je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils ont tous, quoi, parce que c'était devenu une forme de Bible ou de croyance. Enfin, comme vous le sortiez là, les références entre Luke Skywalker, les noms, tout ce qui est un peu caché, bah justement, ésotérique dans ce film avait rendu quelques personnes un peu fous, quoi, un peu folles, quoi.
Oui, bah c'est toujours le danger quand on commence à devenir trop accro à quelque chose et aller trop loin. Mais c'est vrai que dans Star Wars, c'est remarquable. Je veux dire, on pourrait faire un livre rien qu'avec le nom des personnages pour comprendre leur symbolisme et leur fonction. Prenez Yoda, par exemple. C'est génial, Yoda. Yoda, c'est à la fois un nom japonais, maître du sabre, ça sonne japonais, mais en même temps, ça renvoie à la lettre hébraïque Yod, qui est la lettre génitrice, et c'est la plus petite.
D'accord.
Et bien sûr, Yoda, c'est un gnome. Bon, c'est juste un exemple, mais c'est tellement... tellement fabuleux de voir à quel point, volontairement ou pas, c'est là où
c'est très étonnant, oui, parce que j'avais jamais fait le rapport, moi, personnellement, mais là, vous ouvrez encore une nouvelle porte, on va pouvoir discuter pendant 6 ans sur les noms des personnages. Encore un grand film, enfin, une grande saga qui a marqué le cinéma, hein, toujours dans les blockbusters et qui est plein d'ésotérisme, hein, enfin, de messages sacrés, cachés, pardon, c'est Matrix. Non?
Oui, Matrix, ben là, ils ont fait très fort, puisqu'on a même, on a un oracle, on a
oui,
Neo qui sonne comme The One, donc nouveau mais l'élu. On a même dans le deuxième épisode un grand architecte.
C'est vrai.
Quand même merveilleux, quoi, comme symbolisme. Les maçons ont dû adorer. Il y a bien sûr dans Neo, dans Matrix, et énormément de clés qui ont permis à beaucoup de gens de s'amuser. Mais l'idée de base, finalement, c'est de se dire que quand on voit ce genre de blockbuster, c'est en ça que c'est passionnant. C'est-à-dire que l'ésotérisme au cinéma, pour moi, ce n'est pas réservé à des films d'arrêt-essai ou expérimentaux, ou comme les films de Jodorowsky ou d'autres. Ça couvre tout le champ du cinéma. Et quand ça arrive dans les très grosses productions, ça arrive sur ce qu'on appelle le cinéma de l'imaginaire, avec un grand I, Et si ça fonctionne aussi bien, c'est justement parce que dans ces cas-là, nous nous retrouvons en phase, inconsciemment sans doute, avec des mythes et des archétypes qui font partie de la structure de notre propre imaginaire, de notre compréhension de l'univers. Je pense toujours que c'est par l'imaginaire qu'on comprend le monde, par le pouvoir de l'imagination. Et donc ces films-là nous donnent des clés, des pistes, des ouvertures, et s'ils ont un aussi grand impact, c'est justement à cause de ça. Pour Matrix, là, il y a aussi des livres qui peuvent être faits, enfin, il y en a qui ont déjà été faits, mais il y a des pistes de recherche qui sont absolument fantastiques.
Voilà. Après, comme dirait l'oracle dans Matrix, faut faire attention que le ravioli qui nous sert de cerveau n'entre pas en ébullition à force de à force de chercher toutes ces choses.
Et toujours penser, parce que c'est, j'aime beaucoup la première scène de l'oracle, parce que quand Neo rentre chez l'oracle, il y a un poste de télévision, il y a la scène avec l'enfant, la cuillère. Mmh. Bon, tout le monde se la rappelle. N'essaye pas de tordre la cuillère, c'est impossible. Tu devrais mieux comprendre la vérité. Quelle est la vérité? Il n'y a pas de cuillère. Ah bon, d'accord, très bien. Mais dans le fond, il y a un écran de télévision et il y a un film de série Z qui passe à cet endroit-là. C'est les monstres de l'apocalypse, c'est l'histoire de lapins géants qui envahissent des champs. C'est un film totalement nul. J'aime beaucoup cette idée-là parce que c'était Suivre le lapin de Alice au Pays des Merveilles, oui, que l'on retrouve là. Mais la grande leçon de l'oracle, c'est ne pas oublier de faire des cookies. C'est-à-dire, il faut quand même, à un moment donné, remettre aussi du matériel. C'est-à-dire que faire des gâteaux, faire des biscuits, c'est se mettre les mains dans la farine, ça veut dire faire du matériel, ça veut dire faire une alchimie vraiment concrète. Et si on ne fait pas ça, si on ne se met pas dans la farine, dans les mains, dans le matériel, on peut partir complètement en vrille et ce n'est pas non plus une très bonne idée.
C'est comme le Candide qui dit finalement « vaut mieux s'occuper de son jardin ».
Exactement.
C'est un petit peu ça. Alors pour finir, je vais vous demander, Laurent Aquenin, puisque vous nous en avez fait un beau livre, hein, « Ésotérisme et cinéma », paru chez Diffusion Rosicrucienne, de nous dire, est-ce qu'il existe quand même des auteurs qui sont, des cinéastes qui sont purement ésotériques, on peut dire qu'ils font du cinéma ésotérique, parce que j'ai pas l'impression quand même qu'il y en ait beaucoup.
Jodorowsky, Alessandro Jodorowsky, ouais,
mais il a fait deux, trois films.
Ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Dans tout,
Santa Sangre.
Dans tout, alors, Jodorowsky, qui a fait La Montagne Sacrée, El Topo, qui a fait récemment la Danse de la Réalité, Poésie sans fin, puisqu'il fait son autobiographie, cinéaste chilien exilé et qui a travaillé à la fois dans la bande dessinée, dans le cinéma, dans tous les arts possibles et imaginables, grand maître du tarot, dont il a écrit un livre passionnant d'ailleurs, La Voix du Tarot, où il réinterprète le tarot de Marseille. Toute son œuvre cinématographique est ésotérique. C'est absolument incroyable. Et avec un humour et une espèce de forme iconoclaste qui est tout à fait remarquable, c'est-à-dire que quand on voit les films, on croit qu'ils se moquent de l'ésotérisme, et en même temps tout est là, c'est extraordinaire, c'est très violent, c'est parfois très érotique, c'est anarchiste au sens propre du terme.
Ça n'appartient qu'à lui. Ah. Mais dans votre livre, vous mettez Alejandro Jodorowsky, " l'ésotérisme panique. Pourquoi panique?
Oui, parce qu'il a fait partie du mouvement panique qui, à Paris, qui était un mouvement artistique dans lequel figuraient aussi Topor et d'autres. Le mouvement panique a beaucoup compté à un moment donné dans leur époque, donc je trouvais intéressant de rappeler ce passage de Jodorowsky dans le mouvement panique, dont il était un des fondateurs, et donc de dire que voilà, lui c'était l'ésotérisme panique.
Donc Jodorowsky en premier dans les cinéastes ésotériques. On a d'autres noms comme ça pour nos auditeurs, peut-être s'ils peuvent après chercher Alina ou dans les
médias. Alors, dans les grands classiques hollywoodiens, je dirais certains films de John Huston.
John Huston, ah ouais.
Qui décidément devrait être retravaillé, notamment L'homme qui voulait être roi, Promenade avec l'amour et la mort, certains films, pas tous hein, de John Huston, mais il y a vraiment des clés très intéressantes chez lui. Et un cinéaste du muet, donc j'ai dit deux mots tout à l'heure, qui s'appelle Frank Borzage, Borzegui dans la vraie prononciation, un immense cinéaste des années 20, parce que je veux dire, il a son étoile sur le trottoir de Hollywood, il a fait des films incroyable, absolument incroyable, notamment L'Heure Suprême, qui sont des grands mélodrames hollywoodiens, qui ont fait pleurer des générations de spectateurs, et qui sont, pas dans tous ces films, mais parfois d'un double sens totalement stupéfiant. Notamment un film avec qui s'appelle Le Cargo Maudit, Strange Cargo, qui est un film d'aventure tout à fait classique. Et celui-là est absolument stupéfiant. Et puis parfois, on peut trouver de l'ésotérisme dans des films beaucoup plus classiques. Le Magicien d'Oz, par exemple, peut être vu à beaucoup plus de niveaux. Et on peut le revoir en disant, voyons d'un peu plus près, et ça marche très très bien.
Et puis, il sert de référence dans beaucoup, beaucoup de films. On trouve toujours des petits morceaux du Magicien d'Oz dans un tas d'autres films au cinéma.
C'est un film géniteur, et d'ailleurs, il a donné naissance ensuite à un autre grand film ésotérique réalisé par John Borman. John Borman, ensuite, va faire Excalibur, mais il a fait avant Zardoz, qui est un film de science-fiction dans lequel le héros se retrouve plongé dans un vortex, et dans le vortex, il va rentrer dans un cristal pour pouvoir aboutir à une nouvelle évolution, enfin quelque chose de totalement incroyable. Oui. John Borman est un cinéaste aussi qui, dans beaucoup de ses films, a travaillé sur des clés ésotériques.
Alors, un dernier auteur, on l'a abordé tout à l'heure, mais je crois que Stanley Kubrick aussi, il nous a ouvert quelques portes, non ?
Non, alors Stanley Kubrick, c'est différent. Non. Stanley Kubrick, c'est un paradoxe. Comme tous ces films. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que je ne vois que... C'est d'abord un immense joueur d'échecs. Donc, c'est quelqu'un de parfaitement cérébral. Donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est le fonctionnement du cerveau humain. Et c'est tout à fait étonnant de voir, par exemple, dans 2001, que l'être humain va finalement battre l'ordinateur. Il va réussir à vaincre l'ordinateur en faisant un mouvement qui était impossible à prévoir. Ça, c'est typiquement du Stanley Kubrick. Mais en même temps, comme tous ces grands artistes qui travaillent sur qu'est-ce que c'est que l'homme, sans le vouloir, ça devient un mystique. Et il va commencer à travailler sur cette notion-là. Mais quand on voit, par exemple, ce film tellement étrange qui s'appelle Eyes Wide Shut, son dernier film,
oui, voilà.
On voit qu'il fait à la fois une démarche ésotérique, une critique de l'ésotérisme très forte à propos des réunions des sociétés secrètes, ouais. Et des choses comme ça, un peu ce qu'a fait Polanski aussi dans La Neuvième Porte, et en même temps qu'il fait cette critique, il retourne finalement encore une nouvelle fois le propos pour revenir à un ésotérisme authentique, c'est-à-dire véritablement masqué, voilé. Celui qui a des yeux doit comprendre. Eyes wide shut, les yeux grands fermés.
D'accord. D'où le paradoxe de Monsieur Kubrick. Tous les cas, je conseille à nos auditeurs de s'ils sont passionnés par le sujet, de feuilleter, de prendre votre livre, parce que là, vous explorez toutes les facettes hein, de l'ésotérisme dans le cinéma. Vous nous menez comme ça par la main un petit peu, enfin par la lecture, dans les différents aspects de ce cinéma ésotérique. Je sais qu'on peut le trouver sur le site drc.fr, comme diffusion
oui,
rosicrucienne.
Dans n'importe quelle bonne librairie, je pense, en commande. C'est un livre normal, quoi.
C'est un livre normal. Bah oui, j'espère bien qu'il est normal. À moins qu'il ait quelques sciences cachées ou messages cachés lui aussi à l'intérieur.
Ah, j'ai peut-être mis une ou deux pistes à l'intérieur comme ça pour le jeu, mais c'est purement factuel quoi. C'est un livre tout à fait accessible. En tout cas, j'espère, parce que sinon, ça aurait été un coup pour rien.
Voilà. Je rappelle aussi que vous faites de temps en temps des conférences pour la Morque, l'ancien mystique ordre de la Rose Croix.
Oui, toujours un peu sur les mêmes thèmes, c'est-à-dire que je lis mon travail d'historien et de mythologue, puisque je travaille beaucoup sur les mythes, et je travaille sur, par exemple, récemment sur le mythe du golem, sur des éléments comme ceci, et puis je travaille beaucoup sur les ressorts de l'imaginaire. J'avais fait avant justement un bouquin sur Star Wars parce que je trouvais ça passionnant, un autre sur le cinéma américain contemporain, notamment des blockbusters, parce que pareil, je trouvais qu'il y avait des choses vraiment passionnantes à retrouver là-dessus. Et quand je travaille, quand je fais des conférences à l'invitation de la Morque, ben c'est bien sûr des conférences qui sont beaucoup plus orientées, on va dire, sur les thèmes de l'ésotérisme et du mysticisme. Mais encore une fois, l'ésotérisme, les ressorts de l'ésotérisme et l'imaginaire, pour moi, sont liés parce que ça puise aux mêmes archétypes. Et c'est ça qui fait fonctionner l'imaginaire humain.
pour la morgue sur la région d'Avignon où nous sommes, ben je pense que ça va reprendre bientôt puisqu'on commence à être déconfiné, qu'on va pouvoir sortir. Il y a des réunions tous les deuxièmes samedis du mois et si vous voulez vous renseigner, vous pouvez contacter le 06 07 10 98 10. 06 07 10 98 10. Laurent Aquenin, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis, la conversation est passionnante. En tous les cas, je pense que les discussions avec vous doivent être animées et on peut parler pendant un bon moment parce que vous avez une véritable science du cinéma et de l'ésotérisme. Merci.
Merci beaucoup.
À très bientôt, j'espère. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.